Par rapport à la première question, effectivement, sur Hayek et l'économie comportementale, une première manière de répondre, enfin, un premier élément cadrer pour la réponse, c'est que, effectivement, l'individu dans la théorie hayekienne n'est pas du tout un individu rationnel au sens axiomatique, etc. Et donc, comme vous l'avez dit, Hayek est un des plus des opposants les plus virulents à tout ce qui est mathématisation de l'économie, considérer que les gens sont parfaitement rationnels, qu'ils ont toutes les capacités de traitement de l'information, etc. Et donc, on pourrait trouver des pages de Hayek qui, si on les mettait en regard de pages d'économie comportementale, finalement, dirait un peu le même message, disant l'individu est plongé dans un contexte complètement opaque, il n'y voit rien, et il s'appuie sur des règles de comportement qui sont soit héritées de la tradition, ou qui se sont révélées très efficaces par le passé, par exemple, et il s'appuie là-dessus pour continuer à agir. La seule différence, c'est que Hayek va s'en tenir à une position assez spéculative sur quel type de règles. Alors, il discute un peu les règles abstraites, les règles plus concrètes, etc. Mais on n'a évidemment pas tous les biais extrêmement précis que propose l'économie comportementale, tout à fait. Mais je crois que là, il y a vraiment des points de convergence qui sont tout à fait clairs et finalement des critiques qui pourraient être partagées entre les Hayekiens d'une part et l'économie comportementale d'autre part. Je pense que c'est tout à fait clair. Il y a aussi beaucoup de thèmes qui sont communs, par exemple la question des conventions et ce genre de choses. Et tout à fait, vraiment, c'est un point de contact très important. Là où je pense que les deux se séparent de manière très forte et très radicale, c'est que chez Hayek, le marché joue un rôle de débiaisement. C'est-à-dire que le marché est efficace parce qu'il sélectionne les bonnes règles ou qu'il sélectionne peut-être les individus, on ne sait pas trop quelle est l'unité de sélection. Alors que vous n'aurez pas ça chez un économiste comportemental. Il y a pas mal de modèles qui se sont posé la question en disant « Ok, les agents sont biaisés, mais finalement, est-ce que, quand je les mets dans un système de marché, est-ce que finalement ceux qui sont moins rationnels ne vont pas mourir ? S'ils meurent, bah, à l'équilibre du long terme, c'est que j'ai que des agents rationnels. Donc, le court terme, je m'en cache un petit peu, en fait. Non, mais c'est comme ça que va raisonner un économiste, en disant « C'est le pendule qui s'ajuste, mais ce qui compte, c'est la position d'équilibre de long terme du pendule qui sera un équilibre stable qui ne bouge plus. » Et je pense que chez Hayek, il y a l'idée que le marché par lui-même permet de sélectionner des bonnes règles et d'être efficace. Alors qu'il n'y a pas cette idée chez les économistes comportementaux qui j'ai perdu en fait, j'ai réintroduit une incise, mais qui essayent de construire des modèles, par exemple, en se demandant pourquoi est-ce que le marché ne parvient pas à débiaiser correctement les individus. Donc à partir de ce moment-là, si on arrive à démontrer que dans des contextes, le marché, il n'y a pas d'incitation, par exemple, à un entrepreneur privé à biaiser un individu. Il faut s'en remettre à une autorité publique, une sorte d'externalité qui justifie l'intervention publique. Donc ce serait la première réponse à votre question. Il y en a une deuxième qui est, que j'ai traduit ici, le terme de Sunstein par paternalisme libéral. Mais en anglais, en fait, c'est libertarian paternalism. Donc, à la limite, il faudrait traduire ça par paternalisme libertarien. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que Sunstein entend discuter avec les gens qui sont encore plus libéraux que Hayek, disons. C'est les libertariens plutôt nosiques, ceux qui posent le choix libre d'un individu comme étant le critère fondamental de l'organisation sociale. Et le message de Sunstein, c'est de dire aux libertariens, dans votre théorie, de toute façon, les agents, vous devez les placer dans un certain contexte institutionnel. Et si ce contexte institutionnel n'est pas neutre sur leur action, quel est votre critère pour choisir telle règle de défaut plutôt que telle autre? Et Sunstein dit, moi j'en ai un, c'est l'utilité des individus. Donc là, je pense que la grande force de Sunstein, en fait, c'est cette idée que de toute façon, il y a bien un contexte de base qui est celui dans lequel vivent les individus. Et un libertarien, s'il est conséquent, dirait, mais je me fiche de savoir si la règle de défaut, c'est qu'il y a Windows Player, ou bien si c'est le contraire, ce qui croit dans le choix individuel. Donc, on pourrait lui répondre, si c'était égal, on va choisir que par défaut, il n'y a pas une date. Je pense que c'est vraiment la manière de faire, mais évidemment, la théorie de Sunshine a été très critiquée, y compris par les libertariens qui ne se sont pas du tout reconnus dans sa vision du droit, parce que, comme vous le disiez, c'est vraiment, en fait, implicitement un paternalisme qui a peut-être la main un petit peu plus lourde que ce qui est dit par Sunstein. Alors, sur la deuxième question, je suis assez d'accord avec vous pour dire que le modèle du paternalisme libéral, et c'est vrai chez ceux qui l'ont introduit, donc Thaler, etc., vise plutôt des mécanismes de régulation. Donc plutôt la puissance politique ou ce qu'on a effectivement des autorités de régulation qui organisent un certain secteur, par exemple. Là où on peut raccrocher ça un petit peu à la figure du juge, me semble-t-il, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que le juge prend en compte ce type de justification d'un environnement de régulation, par exemple, pour fonder ses décisions. Et donc là, il n'est pas lui-même paternaliste libéral, mais disons qu'il participe d'une organisation qui pourrait être paternaliste libéral, si jamais il considère qu'il est de son ressort, de veiller à ce que les dispositifs créés par des paternalistes libéraux dans les autorités de régulation soient correctement appliqués dans les affaires, par exemple, qu'il a à traiter. Et puis sur la troisième question, je crois que c'est tout à fait clair que la tradition réaliste est très importante. Et comme vous l'avez dit, en fait, cette tradition réaliste, elle imprègne complètement les économistes. Ils ont comme vision du juge une vision essentiellement réaliste, à mon avis. Mais les conséquences pour le droit de ce genre d'analyse ou de ce genre d'expérience sur un panel de juges, c'est... Je pense que ça va au-delà de dire bon, les juges sont des hommes, ils subissent des biais, etc. Parce que on peut en déduire ou trouver des enjeux qui tiennent, par exemple, à des règles, mettons, de procédures, qui pourraient protéger les juges eux-mêmes des biais. Par exemple, la manière dont l'information est fournie par les experts. Ou bien, est-ce que je ne sais pas si y a pas d'exemple concret de droit français qui me viennent en tête, mais est-ce que si les agents ont essayé de résoudre à l'amiable le cas, est-ce que ça c'est une information qu'on doit donner au juge? Pas tout à fait sûr, parce que ça pourrait jouer chez lui justement comme une encre initiale par rapport aux évaluations des dommages qu'il va prononcer. Donc là on voit que les règles qui par exemple cachent certaines informations, pour un économiste traditionnel, c'est complètement irrationnel parce que plus j'ai d'informations, mieux c'est, puisque je suis capable de les traiter rationnellement. Pour un économiste comportemental, ça peut être le contraire. J'ai parfois intérêt à cacher certaines informations pour éviter qu'elles ne jouent un rôle beaucoup trop important dans la décision finale. Donc, je crois que c'est plutôt vraiment dans ce sens-là que l'on peut tirer les expériences des économistes vers des choses qui sont intéressantes pour les juristes.